bienvenue dans cette nouvelle émission de notre série consacrée à la thématique de l'histoire des Vosges, l'histoire d'Épinal, mais également l'histoire des fortifications qui ceinturent cette cité spinalienne. Aujourd'hui, à nouveau, nous accueillons Jacques Grasser. Bonjour.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes agrégé d'histoire et avec vous, nous faisons la présentation de cette série d'émissions. Et lors de la précédente, nous parlions de ces hommes qui sont nécessaires pour faire fonctionner les très nombreuses batteries d'artillerie nécessaires au fonctionnement de ces forts. Alors, ces hommes, ils sont nombreux, ce sont des régiments, je crois qu'on peut le dire comme ça. Je vous laisse la parole pour nous les présenter.
Alors, les régiments sont destinés à l'offensive. C'est-à-dire qu'en 1914, quand la guerre éclate, le premier régiment qui part d'Épinal, c'est le 149e régiment d'infanterie, qui part d'Épinal tout au début de la guerre, hein, le 6 août, et qui va combattre, qui vont commencer à combattre les 8 et 9 août, en particulier au col de Sainte-Marie aux Mines. Les autres régiments, 4e régiment de chasseurs, il va partir aussi. Le 62e régiment d'artillerie, c'est un régiment de campagne avec des canons de 75, il s'en va aussi pour l'offensive à la frontière. C'est la campagne d'Alsace, d'août-septembre 1914. Donc voilà, c'est une place, c'est pour ça qu'on a gardé malgré tout de Serré de Rivière l'idée que c'est une place à la fois défensive, qui ne protège pas la ville, on ne construit pas des forts pour protéger la ville. Ce que l'on protège, c'est le carrefour de route et de voie ferrée. C'est ça qui est important. La ville, les militaires s'en moquent complètement. C'est uniquement le carrefour de voie ferrée et le carrefour de route qui est évidemment stratégique. Donc, c'est la raison pour laquelle on va construire tous ces ouvrages et quand même fermer. Alors, la fermeture, elle va assez loin puisque pour éviter que des éléments d'infanterie adverse ne s'infiltrent, on va même, en 1914, au moment de la déclaration de guerre, on va même construire des barricades en bois là où on ne peut pas fortifier, interdire une infiltration ennemie. Alors, on va déjà fortifier et créneler les murs des casernes, puisque les casernes sont toutes situées quasiment, sauf les vieilles casernes comtades, à l'extérieur de la ville. Par exemple, aujourd'hui encore, quand on va sur le site de la caserne de Courcy ou de Réfi, si vous allez vers l'ouest, au-dessus du vallon de Lima, vous avez encore les murs de la caserne où on voit encore des créneaux de tir pour des armes légères. Ça, c'est 1914. Et puis là, on ne peut pas se servir, par exemple, de murs de jardin pour interdire l'approche de l'ennemi. Mais on va construire, en fait, des barricades en bois, un peu comme les forts du Far West, avec des arbres debout. Et on a une belle image d'Épinal qui représente le général gouverneur d'Épinal en 1914, le général Maugère, une des images d'Épinal qui représente des vues de la guerre de 14, où on le voit en pied, debout, et derrière, on voit évidemment Épinal, la basilique, et on voit une barricade qui barre une route qui arrive sur Épinal, comme dans le Far West, c'est exactement pareil, avec des soldats qui sont en train de contrôler une voiture automobile. Voilà, on le voit. Ça, c'était effectivement construit. Alors, c'était très éphémère. On le retrouve dans les archives, puisque après la guerre de 14, le front s'éloigne d'Épinal, donc ça avait été démoli. Mais c'est vrai qu'en août-septembre 14, on avait ça ici à Épinal. Donc, vraiment une place fermée, ce qui n'empêche pas les régiments de sortir et d'aller à l'offensive. Alors, c'est pour ça que, ça sera un peu une conclusion, quand on parle du général Serré de Rivière, son système est totalement cohérent jusqu'en 1885. Ensuite, entre 1885 et 1914, c'est autre chose. D'abord, c'est autre chose parce que, comme je l'ai dit, on va faire venir du béton spécial et béton armé dans un certain nombre d'ouvrages. Alors, le programme s'arrête évidemment en 1914, mais si on avait voulu continuer le programme de bétonnage des ouvrages et l'arrivée de tourelles en acier, c'était un programme qui courait jusqu'en 1922. Avec entre parenthèses, d'ailleurs, la construction d'un nouveau pont à Épinal au niveau de Saint-Laurent, pour aller sur une rive à gauche. Ce pont-là, il nous manque toujours. Il était prévu dans le programme jusqu'en 1922. Voilà. Et donc, la conception, alors qui ne sera pas faite complètement, puisqu'on va simplement bétonner un certain nombre d'ouvrages, en particulier sur la rive droite de la Moselle, le fort de Deauville, le fort de Longchamp, le fort de Dévillé, le fort des Adelphes, en particulier, et puis, sur la rive gauche, le fort d'Uxelier, bien sûr, un peu de béton à la Grande Haie, aussi, un peu de béton à Girancourt, puis voilà, c'est tout. Voilà, on s'arrête là avec la guerre de 14. Mais ça coûtait extrêmement cher aussi. Le Parlement était un peu prudent sur les crédits alloués à ce genre de fortification. Donc voilà, quand on parle en 1914 du système Serré de Rivière, c'est juste, C'est vrai pour les ouvrages qui ont été construits avant 1885, c'est faux pour la conception de fortifications telle qu'on la voit entre 1885 et 1914. Voilà.
Cérébrivière, après son évincement de l'armée, qu'est-ce qu'il va devenir ?
Alors, il est en retraite, il habite à Paris, et il va mourir en 1885. Il est enterré d'ailleurs au Père Lachaise, avec un petit monument, un petit obélisque sur sa tombe. Il faut la trouver, hein. C'est vraiment une petite tombe, hein, avec une formule latine à propos des pierres, les pierres qui mentent, qui ne vont pas mentir, etc., sur une formule latine sur sa tombe. C'est tout ce qu'il y a. C'est très dépouillé, hein, c'est très dépouillé. Mais, comme je vous disais, son hôtel particulier à Albi existe toujours. Dans le vieil Albi, c'est une très belle maison d'ailleurs, qui était la maison de famille de cette famille Cérébrivière.
Et une famille qui a gardé sa mémoire et qui nous permet à nous aujourd'hui...
Oui, qui a des descendants d'ailleurs, hein. Voilà.
Voilà, et qui nous permet, nous, aujourd'hui, d'en savoir davantage sur cet homme, parce que son passage dans l'histoire n'aura pas été très long, historiquement parlant, hein, entre 1873 et 1880.
Ben, oui et non, parce qu'il a quand même un passage, disons, on va dire, à partir de 1850, où il va effectivement concevoir de nouveaux ouvrages, donc diriger effectivement comme officier du génie dans les chefferies du génie, c'est pour ça que j'ai parlé de Nice.
Il va se déplacer beaucoup, hein.
De Toulon, de Dion, etc. Et puis Metz, comme je le disais. Donc il connaît bien Metz. D'ailleurs, à Metz, il y a une des casernes de Metz qui porte son nom. Hein. Et donc, ensuite, il va être célèbre à cause du procès de Bazaine. Puis ensuite, il va être célèbre à cause de cette gigantesque construction. Alors, ce qui fait qu'on l'a affublé aussi, Comaxo, du surnom de Vauban du 19e siècle. Donc, on a deux Vauban au 19e siècle.
Deux généraux qui ont eux aussi porté les travaux, les aménagements pour tenter de protéger.
Voilà. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai fait baptiser cette route qui va au relais de télévision de route Cérébrivière, parce que finalement, le fort de la Mouche, le fort de Razimont sont les deux premiers forts qui ont été construits à Épinal. Donc, à l'époque du général Cérébrivière.
Donc, il faut le rappeler aussi, à cette époque-là, la frontière, c'était à côté d'Épinal, hein, c'était les Vosges, la frontière.
Bah, à vol d'oiseau, c'est 40 km.
Voilà. Et donc, c'est important de protéger cette zone. C'est pour ça que le secteur spinalien, entre autres, a été largement fortifié.
Voilà. Et lors de l'offensive française en août 14, où on est battu dans les Vosges centrales, puisque l'armée allemande, si on va garder la ville de Thann, par exemple, en Alsace, en revanche, Cernay reste allemand, comme Mulhouse. Et puis, on va combattre les Allemands au col de la Chipote, hein, Mesnil-sur-Belleville, voilà. C'est la bataille des Vosges, en août-septembre. On va commémorer le 108e anniversaire de la bataille de la Chipote le dernier dimanche d'août, traditionnellement. Hein. C'est là où la bataille fait rage. Hein, il y a quand même 4000 morts côté français, quand même, hein, là. Donc, la cérémonie est toujours très émouvante, d'ailleurs, à Mesnil-sur-Belleville, à Ambervilliers, puis au col de la Chipote proprement dit. C'est un peu long, mais enfin, voilà. 108 ans. Et puis, la conception de Cérébrivière a réussi, puisqu'il faut se souvenir, en 1914, de la bataille de Lorraine, c'est-à-dire la bataille de Gerbeviller, hein, où l'Allemagne attaque, passe à l'offensive avec la 6e armée allemande en direction de la baie de la Moselle, en venant du département de la Moselle. Hein, donc, droit vers l'ouest, là où il n'y a pas de fortification entre Épinal et...
Dans la fameuse trouée.
La fameuse trouée que Cérébrivière avait laissée. Et il l'avait laissée exprès en se disant... Les Allemands vont aller vite, hein, puisque l'idée, c'est d'aller le plus vite possible, aujourd'hui aussi, pour faire une offensive en direction du bassin parisien et tourner les armées françaises qui se défendent face au nord. Hein, n'oublions pas que les Allemands, les principales armées allemandes, elles sont au nord du bassin parisien. Hein, ça sera la bataille de la Marne. Et donc, les armées qui défendent face au nord, si jamais l'Allemagne arrive à percer sur la Moselle, au niveau de la trouée de Charmes, ben, ces armées sont encerclées. Donc, c'est terminé. Hein? Et donc, pour éviter cela, on va donc laisser cette trouée. Et la première armée française basée sur Épinal et la deuxième armée française basée sur Nancy vont prendre en tenaille l'armée allemande qui se précipite dans la trouée de Charmes. Et l'armée allemande va être battue. C'est rappelé par le fameux monument de Charmes qui domine la route à quatre voies vers Nancy, sur la gauche. On a une petite colline, au-dessus il y a un monument qui a été construit après la guerre de 14 et qui commémore justement cette victoire de la Trouée de Charme qui va sauver les armées françaises et qui va permettre la victoire de la Marne, la première victoire de la Marne.
Donc voilà, on voit que ce travail mené par Céré de Rivière aura porté ses fruits même bien après son décès.
Tout à fait.
Est-ce qu'on peut dire qu'il a servi aussi d'inspiration pour d'autres bâtisseurs par la suite? On pense à la ligne Maginot, à d'autres idées?
Alors, non, parce que la ligne Maginot, c'est au contraire, à nouveau, une ligne fortifiée. Mm-hmm. Donc, il n'y a pas de trouée. Hein. Mm-hmm. En dehors, si, la trouée de la Sarre, mais parce qu'on ne peut pas construire d'ouvrage dans un endroit qui est très humide, marécageux, etc. Mais en dehors de cet endroit-là, qui peut difficilement permettre une offensive, tout le reste, c'est une défense linéaire depuis l'Alsace. Hein. Parce qu'à Maginot, c'est aussi l'Alsace face au Rhin. Alors, en revanche, ce que l'on va avoir, ce qui rappelle des forts de l'époque 70-14, c'est certains armements de la Maginot, puisqu'on a démonté un certain nombre de tourelles de 75 dans les ouvrages, justement, de cette ligne fortifiée. Mais tourelles 75 qui ne datent pas de Céré de Rivière, hein, qui datent des années 1990-1900. Hein. Et ces tourelles de 75, comme celles qui fonctionnent au fort d'Uxonnier, par exemple, vont être démontées et vont être remontées sur la ligne Maginot. La seule différence, c'est qu'on va les équiper d'un approvisionnement d'obus automatique. Donc, ces canons vont tirer par rafale, comme un pistolet mitrailleur, on va dire. Et d'ailleurs, on a une relation en 1940 où on accueille dans les Maginot, je ne sais plus dans quel secteur, on accueille le roi d'Angleterre, le roi George, qui vient visiter effectivement la Maginot, et on lui fait une démonstration de tir sur un clocher allemand. Hein, et on envoie une rafale de 75 qui détruit le clocher dans un village allemand de l'autre côté. On est dans la période de drôle de guerre. Hein.
Oui.
Voilà, septembre 1939, mai 1940. Voilà.
En tout cas, voilà un héritage qui va se perdre un petit peu dans le temps, mais qui aura porté ses fruits, au moins jusque durant la guerre de 14, et qui ensuite va servir.
Tout à fait.
Bien, merci pour cette présentation. Dans quelle direction part-on après pour notre prochaine escale au niveau des forts?
Bon, on va peut-être faire quelques descriptions d'ouvrages, justement, aller un peu plus près.
Quelques visites.
De ces ouvrages. Alors, c'est pas seulement les forts, hein, mais c'est les batteries, c'est les redoutes. C'est les postes de commandement, c'est le chemin de fer militaire, hein, ce qu'on appelle la voie de 60, hein, etc., etc. Donc il y a encore de quoi.
Très bien, alors à la prochaine fois.
À la prochaine fois.